Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons continuer avec le sujet de louange et adoration que nous avons ce matin. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous ne sommes qu'à quelques jours de célébration de Noël et nous devons en effet faire attention à ne pas célébrer Noël sans le Christ. Nous ne célébrons pas Noël comme le monde le célèbre. Jésus-Christ est notre seule raison de célébrer. Et avec cela à l'esprit, nous allons nous tourner aujourd'hui vers les événements qui se sont produits lors de la naissance de Jésus il y a environ 2000 ans à Bethléem. Isaïe le prophète a prophétisé environ 700 ans avant la naissance de Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9, 6. Dans la Bible, nous trouvons que de nombreux noms ont été donnés à Jésus. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Rédempteur, bien-aimé Fils de Dieu, Alpha et Oméga, Médiateur, l'Agneau de Dieu, la Parole, Christ, Jésus, Emmanuel, Roi des rois, le chemin, vérité et la vie, brillante étoile du matin, pain de vie, Fils de l'homme, je suis le lion de la tribu de Juda, le rocher, la pierre angulaire, le bon berger, et ainsi. Ce ne sont là que quelques-uns de nombreux noms merveilleux de Jésus. Il y a plus de 50 noms pour le Seigneur Jésus dans la parole de Dieu. Pourquoi tant de noms de Jésus? Pourquoi tant de noms pour Jésus? La raison pour laquelle il y a tant de noms, c'est parce que vous ne pouvez tout simplement pas mettre des mots sur qui est Jésus. Dans la Bible, nous trouvons que le nom avait un sens et une signification. Dans la période d'Adam à Moïse, Dieu était généralement connu sous le nom de El, Elohim, El Elyon, et de noms similaires. Il était Dieu le Créateur, le Puissant, Invisible, Redoutable, seul et éloigné de l'homme. Le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le trône et la terre, et le trône et la terre sont marchepieds, sont Actes 7, 49. À Moïse, cependant, Dieu s'est révélé par son nom personnel, Jéhovah, ou Yahvé. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant, Shaddai. Mais c'est par mon nom que je n'ai pas été connu de moi, Jéhovah, et c'est par lui que je n'ai pas été connu. Je suis Jéhovah, c'est mon nom, dit Isaïe 42, 8. Jéhovah, cependant, est plus qu'un simple nom. C'est un mot qui a un sens, il exprime ce qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le grand, immuable, éternel, existant par lui-même. Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis. Celui qui a l'être en lui-même, Jéhovah était le Dieu personnel de son peuple élu, Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants. En Deutéronome 6, 4, nous lisons, Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, Jéhovah notre Elohim, est un seul Seigneur, est le seul Seigneur. Le nom de Jéhovah habituellement écrit Seigneur sur nos Bibles est utilisé quelque 6400 fois seulement dans l'Ancien Testament. Mais Jéhovah, à quelques exceptions près, n'était pas un Dieu connu personnellement du peuple. Sa présence, sa gloire et sa puissance ont été vues et entendues dans le signe et la voix au mont Sinaï et dans les types obscurs, les images et les figures de tabernacle, du temple, des offrandes, de la nuée, etc. Mais lui-même était distant et craigné par le peuple. En présence de Dieu, Moïse et le peuple tremblèrent. Exode 19. Et nous savons que le peuple il ne peut pas même approcher de la mont Sinaï, de où le Seigneur il a parlé. Quand Élie a entendu la voix de l'Éternel, il s'enveloppa le visage de son manteau. Vous savez, quand Élie il était caché dans une caverne, quand le Seigneur l'appelle, il couvre son visage, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et Isaïe confessait ses péchés quand il a eu la vision du Seigneur. Ézéchiel tomba sur sa face, comme Jean, l'apôtre Jean tomba à ses pieds comme mort. Nous lisons l'Apocalypse 1:17. Et en Daniel 5:6, nous lisons ainsi. Alors le roi Belshazzar changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Jéhovah est très saint. Un autre Dieu est aussi un feu dévorant, comme nous lisons à Hébreux 12:29. À l'époque de l'Ancien Testament, les rois, les prêtres, les prophètes ou le peuple ne pouvaient se permettre de traiter la personne de Jéhovah, Elohim, avec manque de respect ou d'indifférence. Ceux qui craignaient son nom et pensaient à lui pouvaient s'entendre à de la bonté et de la miséricorde, car il était un Dieu prêt à pardonner, plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère, et d'une grande bonté. Et ainsi nous trouvons le Dieu de la Bible comme un Dieu lointain. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Nous comprenons qu'il n'y avait rien qui entravait sa relation avec eux jusqu'à la chute de l'homme. Dieu avait une communion avec Adam et Ève. C'est le péché de l'homme qui a causé la rupture de sa relation avec Dieu. Dieu devait chasser l'homme de sa sainte présence. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Leur fils Caïn, qui a tué son frère Abel, a de nouveau été chassé de la présence de Dieu. Voyez ce que dit Caïn. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. » Genèse 4:14. Donc l'homme pécheur, il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Les voies de l'homme n'étaient pas meilleures pendant la période qui suivit la chute. Et voyez ce que Dieu dit dans Genèse 6:5-7. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, des hommes, était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » C'était si mauvais, le cœur de l'homme. Mais ce qu'il y a de plus merveilleux dans notre Dieu très saint, riche dans son amour et compatissant, c'est qu'il n'a jamais abandonné l'homme dans son péché et dans sa misère. Il vient le chercher où il se trouvait. L'histoire de l'humanité telle qu'elle est rapportée dans la Bible nous donne un nombre multiple de preuves de cette vérité. Il les trouve en Égypte alors qu'il était esclave et les fait sortir de l'esclavage sans fin. Il dit à Moïse que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8. Dans ce verset, nous voyons le cœur de Dieu qui est Dieu invisible, éternel, et en même temps, il est très saint. Son désir pour venir habiter parmi son peuple. Nous voyons le désir de Dieu de venir habiter parmi son peuple. Si vous voulez bien tourner avec moi en Exode 26, on va lire versets 30 à 33. Exode 26. Exode 26, nous allons lire à partir de verset 30 jusqu'à 33. Dans le 25 et 8, il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et après, il donne le détail. En Exode 26, verset 30, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Verset 32, tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là et dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage, autrement dit l'arche d'alliance. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc Dieu, il voulait venir habiter parmi son peuple, et là il donne la prescription, l'ordonnance, comment il devrait construire le tabernacle, puisqu'il peut habiter parmi le peuple. Dieu, il est très saint, et le peuple sont des pécheurs. Comment le Dieu très saint, il peut venir habiter parmi le peuple? Vous savez, les 12 tribus, il devrait, quand ils campaient, il devrait 4 tribus dans le nord, 4 dans le sud, 4 dans l'ouest, et 4 autres dans l'est. Et Dieu, il demanda à Moïse de construire le tabernacle au milieu. Donc, il voulait habiter parmi son peuple. Le tabernacle était le seul endroit dans le monde entier où les gens pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Dieu était descendu pour vivre avec son peuple. Cependant, il n'y avait presque aucun moyen pour eux d'entrer. L'accès à l'installation était limitée. La plupart des Israélites ne voyaient les rideaux et autres meubles que lorsque les sacrificateurs déplaçaient le tabernacle d'un endroit à l'autre. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion de visiter l'endroit. On ne peut pas les promener dans le tabernacle. Seul le sacrificateur ou des lévites pouvaient entrer. Et seulement lorsqu'il avait un devoir sacerdotal à accomplir. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont été confrontés à un autre rideau, un autre voile, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Rien ne symbolisait plus clairement l'accès limité d'Israël que les chérubins. La première fois que les chérubins sont mentionnés dans l'Écriture, c'est dans Genèse 3, où il garde le chemin de l'arbre de vie. Ces chérubins bloquaient l'entrée du Jardin d'Éden. Les chérubins sur la tapisserie du tabernacle représentaient quelque chose de similaire. D'une manière symbolique, ils gardaient le chemin vers Dieu. C'est quand Dieu le chassa Adam et Ève du Jardin d'Éden, pour ne pas re-entrer dans le Jardin d'Éden, il a mis le chérubin avec l'épée flamboyant pour qu'il n'entre pas. Et ici, dans la tapisserie, Dieu demande à Moïse de faire de manière que sur le voile, l'image de chérubin. Donc tous les enfants d'Israël, quand ils voient, ils devraient penser à ce qui s'est passé à Adam et Ève. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. L'homme pécheur, il était banni de la présence de Dieu. Tout cela a été conçu pour montrer la sainteté suprême de Dieu. Dieu est pur dans sa majesté et immaculé dans sa justice. Il est aussi juste, ce qui signifie que sa sainteté exige qu'il punisse le péché. Par conséquent, nous devons faire attention à la façon dont nous nous approchons de lui. Il n'y avait qu'un seul moyen pour les gens d'entrer dans le tabernacle. Il n'y avait pas plusieurs portes. Il y avait un seul moyen. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous. Nous avons loué tout à l'heure notre Emmanuel, Dieu venu habiter parmi nous. Mais quelle attitude nous avons? Est-ce que nous rappelons toujours qu'il est un Dieu très saint et nous sommes des humains pécheurs? Et tournez encore à Exode 29, nous allons lire de versets 43 à 46. Exode 29, 43 à 46. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, et que les fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Quelle manière Dieu se révèle à ses enfants. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Mais quand même, il y avait des limites. Mais Dieu, il a voulu habiter parmi ses peuples. Le Dieu qui vivait dans le tabernacle est le même Dieu qui règne aujourd'hui. Il est toujours le grand roi qui trône au-dessus des chérubins. Il est toujours le Seigneur de toute la terre et son caractère n'a pas changé aujourd'hui. Il est toujours le Dieu saint qui exige une obéissance parfaite et le Dieu juste qui punit le péché. Il est aussi impressionnant aujourd'hui qu'il était à l'époque de Moïse et nous sommes toujours séparés de Dieu par notre péché, par notre état pécheresse. L'un des versets les plus importants pour comprendre la signification du tabernacle dans le Nouveau Testament est Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est fait chair et habité parmi nous. Le verset est important parce que le mot traduit par habiter vient du mot grec pour tabernacle. Ainsi, le verset signifie ceci. Le verbe s'est fait chair et a établi un tabernacle parmi nous. C'est l'interprétation de l'incarnation. Jésus-Christ est le vrai tabernacle de Dieu. Il est l'espace sacré où le ciel descend sur terre pour que nous puissions toucher le visage de Dieu. Vous vous souvenez, mais hier avec les frères, on a médité sur le caractère de Siméon, le vieil homme qui attendait la venue de Messie. Et imagine, il a porté l'enfant, l'homme pécheur, il a pu toucher le visage de Dieu. C'est inimaginable. « contrairement au premier tabernacle, il n'est pas fait de l'argent, fait d'argent et d'or, de lin et de laine, de peau et de peau tendue sur un cadre en bois. Au contraire, il est fait de chair et de sang. C'est en tant qu'homme Dieu que le Christ a été crucifié. Son corps déchiré par le clou dur de notre haine et de notre péché. Et alors que Jésus était suspendu à la croix, souffrant et mourant pour payer le juste prix de notre péché, quelque chose de miraculeux se produit au temple de Jérusalem. Le voile qui séparait le lieu saint et du lieu très saint fut déchiré en deux. Maintenant, avec ce contexte de l'Ancien Testament, passons au Nouveau Testament, au livre de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 1. On va lire versets 19 jusqu'à 25, c'était notre passage pour la journée. C'était déjà lu, mais on peut encore lire pour creuser, pour trouver ce qu'on peut trouver comme enseignement. Matthieu 1, 19 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils l'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Esprit-Saint. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc il y a deux noms ici. Le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Puis à verset 23, voici la Vierge sera enceinte, c'est la prophétie d'Isaïe. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et des allusions à la qualité de cette nouvelle apparaissent dans ce passage. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, ô bergers. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. C'est intéressant de voir du près les noms par lesquels le fils de Marie devait être appelé. Des noms tels que Jésus et Emmanuel. L'un qui décrit sa fonction, que devait-il faire, celui qui décrit et l'autre, Emmanuel, celui qui décrit sa nature. Qui était-il? Jésus, ce qu'il va faire, il va sauver son peuple de leurs péchés. Et Emmanuel, c'est nature, Dieu même qui vient habiter parmi nous. Dieu avec nous. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. On voit l'association historique de ce nom, un nom juif très commun, le nom de Jésus, souvent donné à la mémoire de Josué, la forme hébraïque du nom Jésus encore, Il est intéressant de comparer ces deux figures de l'histoire. Josué a conduit la nation d'Israël dans la terre promise, à Canaan. Jésus conduit le peuple de Dieu dans la terre promise, c'est-à-dire le ciel. Et le signifiant de ce nom, c'est Jésus. Josué signifie Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. C'est à juste titre que le fils de Marie a été appelé ainsi, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et maintenant, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » La prophétie d'Isaïe concernant ce nom se trouve dans Isaïe 7, 14 à 16. Nous avons lu, on peut lire encore, Isaïe 7, 14 à 16. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, les deux rois, sera abandonné. Donc maintenant, nous allons jeter un coup d'œil rapide à la prophétie pour comprendre la signification de ce nom Emmanuel. Et nous devrons comprendre l'arrière-plan pour trouver la réponse à cette prophétie. Et après le règne du roi Salomon, la nation d'Israël était divisée, nous connaissons. Et les 10 tribus du nord, et ils sont formés, ils sont liés ensemble. Il avait la capitale comme il avait Samarie comme capitale. Et plus tard, c'était appelé Israël. Et des autres deux tribus, on appelle la tribu du sud, hein, ils ont formé le contrée qu'on appelle Juda. Donc, il y avait deux pays, Juda et Israël. Et pendant la période d'Isaïe, l'empire assyrien a gagné le pouvoir et d'autres nations et ils ont fait une coalition pour combattre Juda, combattre Israël. Et Achaz était le roi de Juda et il voulait faire contre à cette alliance de Syrie et Israël, et pour attaquer Juda. Achaz, il était le roi de Juda. Donc, c'était la situation. Et en Isaïe 7, pour voir ce que se passe, Isaïe 7, 10 à 17, on va lire. Isaïe chapitre 7, le verset 10 à 17. L'Éternel parla de nouveau à Achaz, il lui dit, demande à Isaïe 7, 10 à 17. L'Éternel parla de nouveau à Achaz, il lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. C'est l'un des passages les plus connus de tous les prophètes. Dieu dit à Akaz de demander un signe que Dieu protégerait Juda de leur ennemi. Akaz a refusé. Alors Dieu promit son propre signe, le signe d'Emmanuel. Nous savons que la prophétie de la Vierge qui portera un fils s'accomplit à la naissance de Jésus. C'est Matthieu qui le dit, mais de nombreuses prophéties bibliques ont des accomplissements à la fois immédiats et ultimes, en deux temps. Cette prophétie s'accomplit, elle, avant la naissance de Jésus. Ésaïe révèle la réponse dans le chapitre 8. La sœur l'a lu ce matin. L'une de des clés est que le mot hébreu, souvent traduit par « vierge », peut aussi être rendu par « jeune femme » ou « jeune fille ». Ainsi, une naissance miraculeuse n'est pas nécessaire pour un accomplissement immédiat. Même lorsque la défaite semble proche et que l'armée syrienne remplit le pays, c'est toujours la terre d'Emmanuel. Dieu n'abandonnera pas son peuple, même dans ses heures les plus sombres. Le peuple d'Israël, il n'était pas obéissant. Le peuple de Dieu, il n'était pas obéissant au Seigneur. Mais Dieu, il abandonnera jamais son peuple. Il se souvient de son alliance qu'il a faite avec son serviteur Abraham. La Syrie arrivera comme une déluge, balayant la Syrie et Israël, mais la Syrie finira par disparaître de l'histoire. Juda restera dans le pays d'Emmanuel. Dieu sera avec eux. Qu'est-ce que cet arrière-plan du nom Emmanuel ajoute à notre lecture de Matthieu 1? Emmanuel, dans Ésaïe, est un signe pour le peuple de Dieu qu'il verra la victoire sur ses ennemis. Malgré le malheur et la dévastation, Dieu sera avec eux, ils seront victorieux. Le fils d'Ésaïe était une première version imparfaite d'Emmanuel, indiquant la victoire de Dieu sur ses ennemis militaires par sa présence. Nous trouvons dans le 8e chapitre d'Ésaïe. Remarquez comment l'annonce à Joseph accomplit cette prophétie. Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Pour le peuple de Dieu à l'époque et pour nous aujourd'hui, nos péchés sont un ennemi. Ils sont pires que n'importe quel pays menaçant. Nous ne sommes pas à la hauteur d'eux par nous-mêmes. Ils sont pires que n'importe quel pays menaçant. Ils sont pires que des ennemis. Et le péché, c'est notre ennemi. Nous ne sommes pas à la hauteur d'eux pour nous-mêmes et nous n'osons pas faire la paix ou une alliance avec nos péchés. Parfois, on fait un pacte avec le péché. On a mal à abandonner le péché. On est temple de Dieu. On a mal à abandonner certains péchés qui sont cachés. Parfois, nos péchés semblent accablants et condamnables. Ceci nous montre au coup et menace de nous noyer. Mais Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, il nous sauvera de nos péchés. Il est Dieu, possédant la gloire de Dieu, le grand Je suis, qui a participé à la gloire du Père avant son incarnation. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Évangile de Jean. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, dit Paul en Romains chapitre 1, versets 3 et 4. En Philippiens, nous voyons qu'il était l'égal de Dieu qui s'est volontairement humilié. Il était l'égal de Dieu, il était Dieu lui-même, mais il s'est humilié. Mais tout à l'heure, nous avons chanté ce cantique qui dit « C'est le roi des anges voilé sous un corps humain. » C'est le roi des anges voilé sous... Quelle humilité! Et en Colossiens, l'apôtre Paul écrit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ce que est la divinité, on peut voir en Jésus-Christ. Tout en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'esprit humain limité et faible se débat avec ce grand mystère. Mais Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Comme c'est marqué en 1 Timothée 3, 16. Dieu manifesté dans la chair. Nous chantons ce cantique. Dieu lui-même, au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable, il naît dans une étable. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Qu'est-ce que cela implique, Emmanuel, Dieu avec nous? Qu'est-ce que ça nous implique? L'homme ne peut rien faire pour atteindre Dieu. Un être infini ne peut pas atteindre un Dieu infini. L'exemple que nous voyons autant de noms pour Jésus, qui signifie son caractère, et même tous ces noms, on n'est pas compris, on ne peut pas comprendre son caractère. Nous contemplerons toute l'éternité. Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, s'est abaissé vers nous alors que nous étions encore pécheurs. Quand nous étions entourés par des ténèbres de la connaissance de lui, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, par son grand amour. D'une certaine manière, la présence éternelle de Dieu dans nos vies, pour un enfant de Dieu, devrait nous donner un sentiment d'immense consolation et de courage, et en même temps, terrifiant dans le moment où il veut fuir de sa présence. Imaginez l'homme de Dieu, Jonas, il voulait fuir la présence de Dieu. Quelle chose terrifique pour lui. Et écoutez la parole de Psalmiste dans Psaume 139. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Comment on peut fuir la présence de Dieu? Mais parfois on fait l'illusion, nous faisons l'illusion, comme si on peut fuir Dieu, le Dieu omniprésent. Il est présent partout. Il est Emmanuel, il est venu habiter parmi nous, mais on oublie qu'il est présent partout. Pour conclure, le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint dans le tabernacle, dans le désert, et dans le temple plus tard, a été déchiré en deux. Elle fut déchirée par la toute-puissance de Dieu, car la Bible dit, en Matthieu chapitre 27, quand il était sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est quelque chose qui n'est pas normal, de haut jusqu'en bas, parce que c'était très très haut. Si c'est de bas en haut, quelqu'un peut faire cela. Et il faut imaginer que le voile était très très épais. Et quand il devrait transporter le tabernacle, il devrait porter sur le dos des animaux, toutes ces choses. Et imaginez à quel point les sacrificateurs ont dû être choqués quand ils ont vu cela. Le voile déchiré en deux. Il se tenait là, à l'extérieur du lieu très saint, regardez l'arche de l'Alliance. Le lieu sacré de la sainte présence de Dieu était ouvert à la vue de tous. Le jour où Jésus, il est mort sur la croix, quand il a poussé un grand cri, quand il a rendu l'âme, le voile s'est déchiré de haut à de bas. Et l'âge d'alliance était visible pour tous. Quelque chose de monumental était produit dans l'histoire de l'humanité. Le voile qui, pendant plus d'un millénaire, avait séparé le peuple de Dieu de la présence de Dieu, s'était écarté. Maintenant, la voie était ouverte pour que les sacrificateurs et pour tous les genres humains pour rencontrer Dieu dans le lieu très saint. La voie reste ouverte aujourd'hui. La seule façon dont nous pouvons nous approcher de Dieu est sur la base d'un sacrifice. Et c'était à l'époque de Moïse, Aaron, c'était ainsi. Sans le sacrifice, sans l'effusion de sang, il ne peut pas entrer dans la présence de lieu très saint. Mais c'est ce que Dieu a prévu. Par sa mort sur la croix, il a payé le prix de nos péchés une fois pour toutes. En faisant ce sacrifice, Jésus nous a devancés dans le lieu très saint. Et en Hébreux 9, 24, nous lisons, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. » Christ n'est pas entré dans le sanctuaire qui était dans le désert. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et après sa mort, Christ il est entré dans le sanctuaire. Il était entré dans le ciel. Et par son sacrifice sur la croix, la voie était ouverte pour que tout ce qui se confie en lui allait à la rencontre de Dieu. Et c'est pourquoi nous arrivons à chanter aujourd'hui devant le trône de la grâce. C'est ainsi que nous accédons à Dieu. C'est par Jésus-Christ et par la foi en lui, nous avons l'accès auprès du Père. Emmanuel signifie que le Père s'est montré à nous. Il veut que nous le connaissions et que nous puissions le connaître. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais il s'est apparu dans la forme de Jésus-Christ. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le Père est invisible. Quand les disciples se sont demandé, « Seigneur, montre-nous le Père. » Il a dit, « J'étais là parmi vous pendant tout ce temps. Vous n'avez pas vu le Père ?» Il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Quand nous lisons les évangiles, que nous voyons ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit et comment il a agi, il nous montrait le Père, Jésus et Emmanuel, afin que nous puissions le connaître. lui et le Père. Emmanuel signifie que Jésus s'est identifié à nous. Jésus s'est fait homme et avec nous, il a fait tout ce que font les hommes. Il est né comme un petit enfant, comme un bébé, impuissant. Il a mangé comme tous les enfants. Il a dormi comme tous les enfants. Ils étaient fatigués dans la vie. Souvent, nous trouvons Jésus endormi dans le bateau. Il était fatigué. Il était atteint de fatigue comme nous sommes. Il a fait l'expérience du bien et du mal, comme la haine des autres et la tentation, mais il n'a pas connu le péché dans sa vie. Hébreux 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre du péché. Il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre du péché, le péché. Il n'est pas un Dieu lointain. Et parfois, on peut penser que le Seigneur, est-ce qu'il comprend mes souffrances, mes douleurs, mes chagrins? Si, il comprend. Il connaît. Car il a vécu notre vie. Il a vécu comme... Il a vécu notre vie dans la chair. Il était Dieu, mais il était aussi 100% homme comme nous nous sommes. Il n'est pas un Dieu lointain. Bien Jésus soit Dieu, il est toujours un humain comme nous. Nous pouvons nous identifier à lui parce qu'il nous comprend. Et le nom Emmanuel signifie que Jésus s'est donné lui-même. Pourquoi le Fils de Dieu deviendrait-il un homme? Pour nous sauver de notre situation désespérée. Il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il est également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Pourquoi Dieu devrait faire une telle chose? Si, quand nous marchons, si vous allez marcher sur un fourmi, est-ce que vous allez descendre dans le niveau de fourmi pour savoir comment il souffre, pour demander pardon? C'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais Dieu, il a fait beaucoup plus que ça. Il a fait beaucoup plus que ça. Nous pouvons lui faire confiance pour être délivrés. Emmanuel signifie que le Père, le Fils et l'Esprit sont restés avec nous. Le Dieu trinitaire, il habite en nous. Le mot Dieu avec nous décrit une réalité présente. Dieu savait qu'il quitterait la terre pour retourner au ciel. Avant de partir, il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Même s'il est assis à la droite du Père, il promet d'être avec nous. Par Matthieu 18, 20, l'une des façons dont cela s'accomplit est la présence du Saint-Esprit dans nos vies, comme nous voyons en Jean 14, 16 à 18. Cela signifie que nous pouvons compter sur lui. Donc, le nom Emmanuel, quel merveilleux nom. Nous avons chanté ce cantique. Quel beau nom, celui d'Emmanuel. Quel beau nom. Et tout un sens pour notre vie, pour notre état. Dieu avec nous. Et le frère, dans son prière, il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle parole? Qui Dieu sera avec nous? Si Dieu sera avec nous, qui peut être contre nous? Rien. C'est ça que l'apôtre Paul, il dit dans son épître, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Louons le Seigneur pour sa bienfaisance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il est, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce qu'il a fait, il nous sauve de nos péchés, Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ton saint nom. Seigneur, quel beau nom que on t'a donné. Seigneur, Dieu avec nous. Seulement Dieu il peut avoir ce nom. Et aucun autre humain. Seigneur, ça nous rappelle que tu ne nous abandonnais jamais. Tu étais toujours en train de nous chercher, même pendant notre rébellion contre toi. Seigneur, même si le premier homme et la première femme ils ont rébellé contre toi, tu es venu les chercher. Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Même si la pensée de Dieu n'était pas dans notre cœur, Seigneur, tu as pensé à nous. Tu es venu ici bas sur cette terre pour nous racheter, pour nous sauver. Merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et aide-nous à vivre digne de ce nom que nous avons reçu. Tes disciples, comme des chrétiens, qui appartiennent à Christ et pas à ce monde. Seigneur, nous demandons cette prière dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.